Vous écoutez l'autre monde et nous avons le plaisir de discuter aujourd'hui avec le groupe Fractal Universe, ou plus exactement avec Vincent, son chanteur et guitariste. Bonjour Vincent.
Bonjour.
On est ensemble donc pour parler de ce nouvel album, The Great Filters, qui va sortir le 4 avril. Donc là, on est trois semaines avant la sortie. Ça fait quoi de se rapprocher de la date butoir, façon de parler, la tension monte un petit peu pour vous?
Non, bah on a surtout hâte de pouvoir partager cet album avec le public, parce qu'il faut savoir que ça fait longtemps qu'il est prêt, et puis que voilà, avec les aléas, ça sort que maintenant, mais voilà, on a vraiment hâte que ça sorte.
Un nouveau concept, façon de parler pour le groupe. On vous connaît puisque vous aviez commencé avec un premier concept autour de Nietzsche. Et là, on repart sur des réflexions philosophiques, technologiques et astrales, on va dire. Un peu pour faire un très très gros résumé de cet album The Great Filters. Pour commencer par ce thème-là, en fait, vous partez notamment sur des thèmes pour des risques existentiels, façon de parler. Enfin, on est sur le paradoxe de Fermi, il y a la singularité technologique. Comment est-ce que tous ces thèmes, en fait, ont influencé, d'un point de vue sonore, votre nouvel album?
D'un point de vue sonore, pas forcément, parce qu'il faut savoir que chez nous, la musique vient toujours en premier. C'est-à-dire que la musique a été écrite, et puis après, je me suis posé la question de savoir quel thème pourrait coller. Finalement, ce thème du paradoxe de Fermi, il est très vaste, et il y a énormément de solutions possibles à ce paradoxe. Et on a à chaque fois essayé de trouver finalement quelle solution possible collerait le mieux finalement à la musique en question. Donc je dirais que c'est plus dans ce sens-là, c'est la musique qui a influencé après les thèmes qu'on a choisi d'évoquer dans les morceaux.
D'accord. Alors pour parler un peu, et puis après je redéclinerai quelques titres, on va parler un peu de votre singularité, façon de parler, avec l'utilisation du saxophone sur quelques morceaux. Enfin, c'est peut-être un peu grossier de dire ça, mais c'est aussi un peu votre marque de fabrique en fait. Comment est-ce que vous avez travaillé justement l'utilisation de ce saxophone pour que ce soit un peu reconnaissable et en même temps que ça ne devienne pas trop cliché pour Fractal Universe?
Ouais, bah finalement ça se fait assez naturellement, je dirais. Donc c'est moi-même qui joue du saxophone sur album et en concert d'ailleurs. Pour moi finalement c'est assez facile de l'intégrer sans que ça devienne quelque chose de forcé ou un cliché, parce que c'est un instrument qui a une palette sonore vraiment vraiment large. Et du coup tu peux lui faire raconter plein de choses, que ce soit sur des passages très intenses comme sur des passages très aériens. Et effectivement tu parlais que c'était un peu notre marque de fabrique. Ouais, c'est sûr que surtout en concert c'est quelque chose qui retient l'attention des gens, quoi.
Donc il y a déjà deux clips qui sont sortis. Je vais commencer par parler de Casualty's Grip. Au niveau des paroles, en tout cas, on est sur le fait qu'on est limité par la vitesse de la lumière et grosso modo, voilà, ça reste une espèce de barrière pour. Enfin, on est un peu coincé à cause de ça. Qu'est-ce qui t'a fait penser du coup à ce thème-là par rapport à la musique? Je pense peut-être les structures rythmiques. Enfin, comment est-ce que tu en es arrivé à raconter ce titre, Casualty Grip, par rapport à la. Enfin, est-ce que la musique t'a donné une espèce de sentiment de claustrophobie au milieu de toute cette immensité? Enfin.
Ouais, il y a un passage notamment où. Enfin, quand le morceau devient assez lourd et intense, c'est vrai que le rythme est assez saccadé et assez perturbant, je pense, à l'écoute. Et ça résume un peu ce côté claustrophobe, comme tu le disais, voilà, le fait d'être bloqué. Après, voilà, il faut toujours nuancer. Oui, effectivement, tu disais que ça parlait de finalement le fait que c'est la vitesse de la lumière qui limite pour toujours avec quelle portion de l'univers on va pouvoir interagir, et que c'est ça qui fait en sorte qu'on n'aura jamais potentiellement contact avec des êtres qui seraient à cet endroit-là, mais ça laisse quand même une énorme portion de l'univers qui nous est ouverte, on va dire. Mm-hmm. C'est déjà bien assez. Et t'as ce contraste justement avec les parties très aériennes du morceau, quand je pense au refrain par exemple, qui a des envolées mélodiques et tout ça qui peuvent un peu contraster avec ce côté plus fermé.
Et sur The Seed of Singularity, on a au niveau de la représentation visuelle avec le clip, une peintre qui est aveuglée par tous les câbles qui lui font un véritable bandeau. Et puis même vous, au niveau du groupe, voilà, vous reprenez cette imagerie-là. Comment vous avez mélangé en fait cette espèce d'influence entre intelligence artificielle, qui pourrait potentiellement supplanter l'art humain. Il y a aussi des passages super abrupts en fait dans votre musique. Comment ça s'est mélangé tout ça déjà musicalement, et après comment est-ce que ça s'est traduit visuellement avec le clip?
Bah, musicalement, c'est vrai que c'est un morceau qui à nouveau a plein de contrastes et qui fait pas mal voyager, et qui a ce côté un peu sombre aussi par moments, justement, d'où le thème évoqué qui est pas forcément très, on va dire, très positif dans le fait d'être supplanté, même au niveau artistique, par l'intelligence artificielle. Donc, ouais, il y a, je pense, cette volonté aussi de donner quelque part un avis par rapport à tout ça, qui forcément, enfin, c'est un sujet d'actualité, quoi. Là récemment encore, j'entendais le patron d'une boîte qui dirige la musique générée par IA, et qui a une vision un peu de la musique totalement effrayante, je dirais. Et c'est bien de prendre un peu finalement le contre-pied par rapport à ça, et de montrer finalement quelque chose d'artistique dans la démarche, quoi. Tu parlais justement du clip aussi. Finalement, on a travaillé en collaboration avec Brice Sinker, qui a réalisé le clip, et son assistante Amélie, qui ont tout de suite en fait cerné l'idée, qui ont vachement amélioré les idées de départ qu'on leur avait apportées. Et je pense que le résultat, il est assez marquant.
Vous avez d'autres projets d'ailleurs, puisque comme je disais, aujourd'hui on est le 25 mars, l'album va sortir le 4 avril. Vous avez d'autres clips, playthrough, lyrics vidéo sous le coude, juste oui, non, parce que voilà, oui, c'est trop tôt pour en parler.
Oui, alors il y aura des choses, des playthroughs, il y en aura toujours, et puis un troisième clip qui se prépare. Ouais.
Pour parler justement de ta voix, je trouve, à avoir écouté l'album de bout en bout plusieurs fois, il y a un côté, même si on a parlé de choses un petit peu sombres là, mais je vais parler du côté aussi lumineux juste après. Je trouve qu'il y a quelque chose de réconfortant en fait dans votre musique. Je trouve que c'est un album qui s'écoute avec plaisir. Je dis pas que les autres albums que j'écoute ça me fait du mal, mais je trouve qu'il y a quelque chose vraiment d'apaisant en quelque sorte. Est-ce que tu as aussi éventuellement ce ressenti sur cet album-là? Okay. Spécifiquement,
non, bah, ça me fait plaisir de l'entendre déjà. Après, c'est vrai que c'est un album qui est plus lumineux de manière générale que les autres albums de notre discographie. Il est plus contrasté aussi, il y a plus de chants clairs, justement, de variété à ce niveau-là. Et je pense que ouais, ça donne un ton un peu différent à l'album dans sa globalité, même s'il reste des passages très, très sombres, très, très métal extrême, quoi. C'est un peu plus nuancé dans sa globalité.
Et justement, sur le titre A New Cycle, on est avec cette espèce de, on va dire, une sorte d'espoir en fait dans la résurgence de la vie. Est-ce qu'on peut y voir une espèce de dommage à la résilience humaine, même si on parle éventuellement de destruction et tout ça, une espèce de boucle éternelle en fait, qui fait que, ok, des fois c'est fini, mais en fait ça recommence quand même. Ou est-ce que je suis allé trop loin dans l'analyse?
Alors, je ne sais pas si ce serait la résilience humaine de manière générale, mais la résilience de la vie, ouais. Si l'être humain s'arrête, je ne pense pas que ça signifie pour autant la fin de la vie, que ce soit sur Terre ou ailleurs. Là, en l'occurrence, The New Cycle, ça a plutôt une connotation assez sombre dans l'ensemble, je dirais, parce que ça parle quand même d'une civilisation qui est arrivée à un point de non-retour où la seule solution, c'est de préserver la vie coûte que coûte en essayant de coloniser d'autres planètes avec... en repartant finalement à zéro dans un cycle évolutif, quoi. Ouais, il y a cette côté résurgence d'une manière ou d'une autre, ça continuera, quoi, que ce soit avec nous humains ou pas.
Sur le track listing, comment est-ce que ça s'est passé? Parce que tu parlais justement de passages plus métal, enfin plus agressifs, des passages très atmosphériques. Au niveau du chant aussi, il y a énormément de variations. Est-ce que vous êtes posé beaucoup de questions sur le track listing, ou est-ce que ça a été évident à mettre en place? Parce que je pense qu'il y a un gros travail dessus quand même.
Bah, ça s'est fait assez naturellement, je dirais, à nouveau. On a tout de suite senti quel morceau serait le premier de l'album et le dernier, je pense. Après, voilà, je pense qu'un album doit respirer aussi quelque part. Il y a surtout vers le milieu de l'album des morceaux un peu plus avec plus de respiration de manière générale. En tout cas, ouais, c'est quelque chose sur lequel on accorde de l'importance, et je pense que c'est important malgré le fait qu'au jour d'aujourd'hui, la plupart des gens écoutent des morceaux dans des playlists et n'écoutent pas forcément les albums d'un bout à l'autre. Mais je pense que malgré ça, faut pas perdre de vue la globalité de l'album. Et ça implique du coup toutes les transitions entre les chansons et tout ça.
Sur la partie enregistrement et puis on va dire par rapport à la partie live, est-ce que vous êtes fait un peu plaisir avec la magie du studio comme on dit et du coup comment ça va se passer après en live, est-ce que vous aurez des adaptations obligatoires, comment
alors,
d'abord comment ça s'est passé en studio?
Ouais, c'est toujours deux travaux un peu différents quoi. L'enregistrement en studio, tu peux tout te permettre, tu peux empiler autant de couches que tu veux, tu peux refaire autant de fois que tu veux les parties, d'autant que on a notre propre studio. Clément, le batteur, il a un studio professionnel à la maison où il enregistre des tas de groupes. Donc, on a fait la batterie là-bas. Et tout ce qui est guitare et chant, j'ai fait à la maison. Pareil, on travaille avec le même producteur depuis nos débuts. Donc, tout ça, ça nous laisse énormément de liberté et de temps pour peaufiner finalement tout ce qu'il y a à travailler. Parce que c'est une musique très riche et qu'il y a énormément de choses qui se passent. Donc, c'est bien d'avoir, de pouvoir faire tout ça sans pression, en fait. Pour nous, c'est important. Après, pour retranscrire ces morceaux en live, forcément, on a toujours une adaptation, parce que, comme on le disait, on peut empiler autant de couches qu'on veut en studio. En live, on est quatre. Mmh. Et pour moi, même si on peut ajouter des samples, finalement, l'essence de la musique, ça doit être nous quatre qui jouerons le morceau en live. Et forcément, ça implique d'adapter un petit peu, de mettre finalement d'autres parties en avant. Quand t'as une dizaine de parties qui se superposent sur album, bah, t'en mets certaines les plus importantes en avant. C'est celles qu'on va jouer. Que ce soit pour les lignes de chant, les lignes de guitare, tout ça, ça demande un peu de réflexion pour voir quels sont les éléments essentiels pour retranscrire ça en live. Après, spécifiquement par rapport au saxophone, des fois, il faut adapter un tout petit peu, rajouter quelques mesures ou enlever une petite phrase par-ci par-là juste pour que j'ai le temps de changer d'instrument. Mais ça, ça se, ça se fait assez bien et ça n'a pas été une grosse contrainte là, dans la préparation pour les joueurs en concert.
Il y a un autre morceau dont j'aimerais parler qui m'a accroché. Là, j'ai réécouté l'album ce matin et puis sur celui-ci, je dis pas que je me suis retourné, mais voilà, il s'est passé un truc. Alors, est-ce que c'est mon humeur du moment? J'aimerais qu'on parle du titre numéro 8, le titre Concealed, qui parle d'une civilisation extraterrestre, en fait, qui observe l'univers en silence, on va dire, en refaisant tout contact pour éviter la destruction. Est-ce que tu pourrais nous dire comment est-ce qu'il a été créé, celui-ci, et puis est-ce que, enfin, nous parler aussi un peu des textes. Est-ce qu'il y a un truc spécial, je sais pas, un accordage ou une tonalité qui est un peu différente des autres albums, ou est-ce que c'est juste par hasard que celui-ci m'a accroché ce matin?
Non, bah, je dirais qu'en fait, ce morceau-là, il a un leitmotiv rythmique qui revient tout le temps, la clave du premier riff, finalement, qu'on retrouve en fait tout au long du morceau. Avec dans un contexte complètement différent en fait. Donc ce motif rythmique va être utilisé pour plein de passages différents, mais des fois vraiment en premier plan, des fois plus en arrière. Et je pense que c'est ça qui est le fil directeur de ce morceau, qui s'est construit un peu de lui-même autour d'une seule et même idée, je dirais. Malgré ça, c'est un morceau qui raconte beaucoup de choses. Il y a beaucoup de couleurs différentes à nouveau, qui résument assez bien finalement ce qui se produit sur l'album. Et si on veut parler un peu plus des textes, ouais, tu le résumais assez bien. Finalement, c'est ce qu'on appellerait la solution de la Dark Forest, la forêt sombre, au paradoxe de Fermi, qui stipule que finalement, compte tenu de ce qui pourrait se passer si on était vu, il vaut mieux rester caché, faire sa petite vie dans son coin finalement, et rester à l'écart de civilisations qui pourraient peut-être nous causer du mal justement. Parce qu'à nouveau, il y a pas mal de parallèles à faire avec l'histoire humaine où... quand une civilisation plus avancée, même si bon, j'aime pas trop le terme, mais en rencontre une qui a un niveau de technologie moindre, et bah souvent ça se traduit en guerre et puis en éradication presque de la plus faible entre guillemets quoi. Il y a énormément de choses peut-être à apprendre de ça, et peut-être que c'est pour ça justement que qu'on ne détecte pas de vie, parce qu'elles ne veulent pas être détectées, ces autres formes de vie.
Vous avez fait le choix de sortir des vinyles aussi, avec des super couleurs. Ce choix-là, alors qu'il est assez évident pour la qualité du son, etc. Comment est-ce que ça s'est décidé, le côté splash, enfin, comment vous avez choisi, en fait, vos deux, parce qu'il y a une édition limitée à 500 en rouge et puis une autre en crème à 200.
C'est ça. Bah, finalement, je pense que c'est important d'avoir des vinyles, parce que tu as énormément de collectionneurs qui aiment bien l'objet, quoi. C'est vraiment un plus bel objet qu'un CD, je dirais. Et à l'heure du numérique, ben, la plupart des gens préfèrent avoir un bel objet de collection plutôt qu'un CD. Ils ne peuvent même plus écouter en voiture, quoi. la plupart du temps. Après, pour les couleurs, on a simplement choisi quelque chose qui nous plaisait. Effectivement, le ton crème est aussi transparent. C'est quelque chose qu'on avait déjà fait sur le précédent et c'est un rendu qu'on a beaucoup aimé. Et ouais, c'est des beaux objets. On les a reçus il y a une semaine, là, et puis ouais, on en est content.
Un mot sur la pochette également, que je trouve à la fois. Je trouve qu'il y a plein d'évocations, enfin, plutôt, il y a plein d'interprétations possibles. C'est-à-dire que je vais dire ce que je vois, et puis après, tu me dis si je suis libre, éventuellement d'ailleurs, de mon interprétation, ou si vous aviez vraiment quelque chose de très précis. Pour moi, je vois deux interprétations, parce qu'on a l'impression que c'est éventuellement quelque chose de figé, genre après Pompéi, genre post-apocalyptique, avec la forêt qui est figée, qui a brûlé, avec cet homme qui bouge plus. Et en même temps, j'ai l'impression que, en fait, ça pourrait être du mouvement, un peu comme si tous les traits de peinture faisait comme quand on prend des photos en fait de l'eau qui coule, où ça fait un peu comme des mouvements, et en fait comme la position de l'homme est avec un genou qui se soulève et la main qui cache le visage, ça pourrait être aussi une espèce de photographie, mais sur un temps long, en fait, comme une espèce d'image arrêtée, mais en réalité il y a énormément de vie derrière, et j'hésite entre les deux interprétations.
Alors il y a du vrai dans les deux, je dirais. Alors l'artiste s'appelle Chad, c'est celui qui a réalisé toutes nos pochettes depuis le début. Et en fait, on lui a envoyé le concept de l'album, voilà, qui lui a tout de suite parlé. Et je pense que son idée principale de ce qu'il nous disait, c'est d'illustrer justement le concept de Dark Forest, dont parle le morceau Concealed, et d'illustrer aussi différents stades de développement de l'humanité, quoi, finalement. Donc on a ou de développement de l'intelligence de manière générale, quoi. Donc on a un peu ces deux approches du côté figé où voilà, on reste caché, mais à la fois du développement de l'univers qui est toujours en mouvement, finalement, toujours en vie. Donc il y a un peu ces deux contrastes là et je pense que voilà, de manière générale, il a voulu mélanger après différentes approches aussi, différentes solutions du paradoxe de Fermi en un seul tableau, et c'est assez réussi.
Par rapport à tes techniques de chant ou tes techniques de guitare, est-ce qu'il y a une évolution particulière? Tu disais que tu mettais un peu plus de chant clair là, mais techniquement parlant, est-ce qu'il y a un truc en plus, en fait, ou de différent sur ce nouvel album de Fractal Universe pour tes parties à toi? Ou sur le saxo d'ailleurs?
Alors sur le saxo, comme j'en fais finalement que depuis 5-6 ans par là, forcément j'ai progressé, gagné en confiance sur l'instrument depuis le dernier album, et ça me permet d'utiliser différentes techniques, d'être plus en maîtrise de mon son. Et je pense que c'est pareil sur la voix. Au fil des albums, je gagne en maturité, en technique finalement aussi. Et même si c'est des choses qui étaient déjà présentes sur les albums précédents, on parlait du chant clair, de la diversité vocale de manière générale, là ça m'a permis de plus la pousser encore dans ses retranchements sur cet album là parce que c'est un album qui est encore plus diversifié que les précédents. Et il fallait que ça se ressente dans la performance vocale, je pense.
Vous partez très bientôt en tournée?
Ouais, tout à fait.
Et pas n'importe où?
Ouais, c'est ça. Alors, on a une tournée de plus d'un mois en Amérique du Nord, donc États-Unis, Canada. Et c'est notre première tournée sur le continent. Donc, c'est sûrement un pas à franchir pour notre groupe. Et on a hâte finalement de pouvoir rencontrer le public nord-américain qui nous soutient depuis le début. Quand on regarde nos stats d'écoute, c'est là-bas que sont la plupart de nos auditeurs, en fait.
Et pour la France?
Ouais, alors on a quelques dates prévues en France, dont la première, alors le 29 mars, donc très bientôt au moment où on filme cette interview, qui sera à la Poudrière de Belfort. Sinon, on se produira toujours en France à Chambéry le 3 avril. Et au Gueulard Plus à Nilvange, en Lorraine pour le coup, l'occasion de la release party de notre album. Donc on jouera l'album en intégralité, c'est le 11 avril ça. Et il y a d'autres dates qui seront annoncées pour la suite de l'année. On travaille sur une tournée française un peu plus tard dans l'année, et ouais, on annoncera ça très vite.
Quelque chose de plus que tu souhaiterais ajouter à propos de ce nouvel album avant que je passe à ma dernière question?
Pour moi, c'est important d'écouter cet album-là d'une traite, finalement, de s'immerger dans l'album, parce que voilà, c'est... Il y a un concept derrière, il y a un lien entre tous les morceaux, et c'est quelque chose qui se perd un peu, comme on en parlait un peu plus tôt, le fait de vraiment se plonger dans un album, c'est valable pour la musique en général aussi. J'invite les gens à plus écouter, à plus prendre le temps d'apprécier la musique, quoi, et pas avoir seulement ça en fond quand on fait autre chose.
Je te propose de choisir 5 objets, et tu choisis celui que tu veux parmi les 5 que je te propose. Tu peux choisir donc une boussole qui guide toujours vers l'espoir, une lampe qui révèle des vérités cachées, un arbre dont les fruits guérissent les blessures, un instrument de musique dont la mélodie apaise les conflits, ou un livre dont chaque page révèle un secret oublié. Tu choisirais quel objet ?
C'est difficile. Je partirais peut-être sur l'instrument de musique. En tant que musicien, je pense que la musique, ça a toujours permis d'abattre les frontières, justement, et d'apporter un peu de positivité, finalement, dans un monde où il y a beaucoup trop de conflits, justement. Et je pense que c'est important de ne pas perdre de vue que l'art, de manière générale, c'est un peu ce qui nous définit en tant qu'humains. Et pour moi, ça reste primordial, quoi, de ne pas perdre ça de vue.
Quelque chose de plus que tu souhaiterais nous dire pour conclure ?
Non, ben un grand merci pour votre attention, et puis j'espère qu'on aura l'occasion de se croiser sur un concert.
Avec grand plaisir. Encore merci.
Ben merci à toi.